Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciade, c'est bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Aujourd'hui, je reçois Pascal Dessin. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Et puis, en attendant de parler avec lui de son dernier livre, un dernier polar d'ailleurs, un roman policier, qui s'appelle « Tu ne verras plus », édité aux éditions Rivage, collection thriller, eh bien, je vous donne quelques petites infos. Tout d'abord, je vous rappelle que ce soir, à 18h, à la médiathèque José Cabanis, au grand auditorium Red Jardin, a lieu une rencontre-débat sur le thème « Quoi de neuf dans le roman français ?» avec Bernard Coman, qui est auteur, traducteur, scénariste, et également directeur de collection aux éditions du Seuil, ainsi qu'avec Dominique Viard, qui est professeur de littérature moderne et contemporaine à l'Université de Lille et qui est également directeur de collection, mais aux éditions Bordas. Donc c'était à la médiathèque José Cabanis à 18h. Et également ce soir, le choix va être difficile, ce soir à 18h30 à la bibliothèque de Naïoux, et une lecture animée par Julien Campredon, qui est un jeune auteur toulousain que j'ai déjà reçu ici à Page à Page, va nous lire trois de ses nouvelles, extraites de son recueil « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes », édité chez la maison d'édition Toussaint Louverture. L'entrée est libre, donc n'hésitez pas à venir si vous habitez pas trop loin de Naïoux à 18h30 à la bibliothèque. Et puis je continue avec le festival de lettres d'automne qui a lieu à Montauban, comme chaque année, c'est la 18e fois cette année. Eh bien ça a commencé lundi 24 novembre et ce festival s'achèvera le dimanche 7 décembre. Alors des rencontres, des lectures, des spectacles, des ateliers et puis plein d'auteurs. Donc, pour vous donner des renseignements, je vous donne un téléphone 05 63 63 57 62 et un site où il y a tout le programme que vous pourrez choisir, les moments où vous pouvez y aller. Donc, www.confluence.org. Confluence, c'est l'association qui organise donc Festival d'automne. Ensuite, je continue avec la médiathèque José Cabanis. Une très belle exposition est en ce moment exposée au Red Jardin, au Red Jardin de la médiathèque, et ce jusqu'au 25 janvier. Ce sont de superbes livres illustrés, des illustrations féeriques, une œuvre de Edmund Dulac, qui est né à Toulouse en 1882 et qui est mort à Londres en 1953. Et alors, à la suite de cette exposition, il y a des visites commentées. Il y en a une notamment le mardi 16 décembre. À 18h. Donc le rendez-vous, c'est sur place, au Red Jardin. Et la visite est traduite en langue des signes sur inscription, sur réservation, numéro que je vais vous donner. Ça peut être intéressant, la culture, c'est ouvert à tous. Donc 05 62 27 45 86, si vous voulez, pour avoir un traducteur en langue des signes pour vous faire expliquer cette exposition. Sinon, vous venez directement à 18h le mardi 16 décembre. Et autour de cette exposition, eh bien, il y a aussi pour les enfants quelque chose qui a été organisé le samedi 13 décembre de 15h à 17h. C'est l'illustratrice Raphaël Michaud qui propose aux enfants de 8 à 12 ans un atelier d'illustration sur le thème des contes connus. En fait, il faut changer le titre du conte et le détourner plus exactement, et ils pourront ainsi réaliser leur page de couverture avec des illustrations, plusieurs techniques d'illustration comme le collage, les dessins, etc. Donc c'est un atelier ouvert donc aux enfants de 8 à 12 ans, entièrement gratuit, au Red Jardin également, le samedi 13 décembre. La réservation, par contre, c'est pour prévoir le nombre de places, 05 62 27 40 31. C'est en fait le rayon jeunesse de la médiathèque. Et puis je termine la page info pour vous dire également qu'il y aura une lecture de contes d'Andersen le mercredi 17 décembre. Je vous rappellerai bien sûr ces dates en temps et en heure, à 11h et à 16h pour les enfants à partir de 4 ans. Et c'est justement au Piccolo Teatro, au Red Jardin de la médiathèque, et l'entrée est libre tout à fait. Donc n'hésitez pas, les contes d'Andersen, ils ont tous bercé, je pense, une partie de notre enfance.
Page à page, Claire Ambille.
Poupou, pitou. Alors, je me tourne vers mon invité après cette petite page d'information. Donc, Pascal Dessin, vous étiez venu l'année dernière à Page pour présenter Cruelle Nature au pluriel,
tout
édité
à fait, oui.
Chez Rivage. Alors, on avait évoqué un peu avec vous votre origine de Dunkerque. Hein. Vous êtes né, vous avez passé pas mal d'années à Dunkerque. Ça s'est retrouvé d'ailleurs dans Cruelle Nature.
Ah oui, il fallait que ça arrive un jour.
Voilà, donc Dunkerque était évoqué, Toulouse aussi, hein, bien sûr. Mais enfin, Toulouse, il y avait...
Dans Cruelle Nature, il n'y avait pas du tout Toulouse.
Non, il n'y avait pas du tout Toulouse.
C'était justement mon premier roman entièrement hors Toulousain.
Hors Toulouse, par contre.
Il y avait eu des infidélités, mais partielles, on va dire.
Voilà.
Puisque dans Mourir n'est peut-être pas de la pire des choses, certains personnages partaient aux Philippines, en Charente-Maritime. Bon, mais l'Assise, c'était Toulouse, dans Loin des Humains aussi, d'ailleurs.
Ah voilà, c'était dans Loin des Humains.
Voilà, il y avait aussi une partie du récit qui se déroulait ailleurs. Mais là, c'était le premier récit 100% non toulousain. Il faut que ça arrive.
Ben oui, et avec donc l'évocation donc de ses racines du Nord.
Oui, complètement.
De Dunkerque, avec la statue de Jean Bar, je m'en rappelle bien. Et puis donc Toulousain d'adoption, hein, bien sûr, Pascal Dessin depuis pas mal d'années. Hein. Mmh. Et un peu Brénoux aussi, hein, puisque vous aviez fait un séjour assez long, justement, pour écrire ce roman.
Dans le centre de la France, dans l'Indre. Oui,
dans l'Indre,
en Brenne.
Donc on peut dire qu'on a un peu Brénoux aussi quand on passe...
Ah, Brénoux un jour, Brénoux toujours.
Voilà.
Mais il faut préciser quand même, parce que ça peut paraître curieux aux auditeurs, la Brenne, c'est vraiment un endroit très singulier au cœur de l'Indre, un pays d'étang. C'est très différent de la Brière, on confond souvent les deux. Et donc c'est un pays dans le pays, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très, très étrange comme ambiance.
Cruelle Nature avait une ambiance également très étrange.
Ça, ne pouvait que provoquer ce genre d'atmosphère.
D'atmosphère, tout à fait. Et passionné, bien sûr, d'ornithologie, toujours. Ça se retrouve là encore dans Tu ne verras plus, hein, déjà dans Cruelle Nature,
oui.
Avec beaucoup de descriptions d'animaux, d'oiseaux.
Oui, la nature est toujours présente, de plus en plus présente dans toute sa diversité, on va dire. Il n'y a pas seulement que les oiseaux, il y a aussi les mammifères. Il y avait
les tortues dans Cruelle Nature, je me rappelle.
Voilà, il y a les reptiles, les insectes. Enfin, les livres s'enrichissent petit à petit de figures animales très variées.
Et donc dans celui-ci, on va trouver même des iguanes, on va trouver des poissons, des
truites. Voilà.
Donc alors ce livre, justement, on en parle, Tu ne verras plus. Alors, le titre est assez évocateur quand on commence à lire. Enfin, on le comprend après quelques pages, forcément, hein, puisque bon, le titre en lui-même, on se dit, tiens, Tu ne verras plus. Et en fait, on comprend au bout de quelques pages pourquoi ce titre.
Il y a un peu de la sentence hein, dans la formulation.
Oui, ça fait un peu dent pour dent, œil pour œil.
Oui, complètement,
ça fait un peu ça.
C'est un peu abrupt.
Oui, il y a des. Ben c'est d'ailleurs le premier mort. Enfin, c'est assez atroce, quoi, comme mort. Hein, c'est violent.
La mort est toujours atroce.
Oui, mais enfin, il y en a des plus atroces que d'autres.
Bon, atroce, disons qu'a priori, c'est pas un meurtre sanglant.
Non.
C'est au-delà des apparences que c'est terrible.
Oui, mais enfin bon, voilà, la façon dont ça a été fait, c'est un peu, ça fait penser un peu à tout ce qu'on voit des fois dans les séries. Ils cherchent toujours des choses plus affreuses les unes que les autres à nous montrer. Et là, c'est vrai que.
Vous allez faire peur aux
auditeurs. Mais non, j'ai beaucoup aimé ce roman policier de Pascal Dessin. Il faut que je commence par là, je crois. J'ai beaucoup aimé. C'est un très bon suspense jusqu'aux dernières pages. C'est bien écrit, évidemment. Et voilà, non, on ne lâche pas le livre, on le commence et on va jusqu'au bout. Non, c'est un très très bon polar avec des personnages très hétéroclites, hein, très décalés, très originaux. Hein, on va en parler. Et donc, comme vous le disiez, ça se passe à Toulouse. Celui-ci se passe à Toulouse. Et
c'est en fait un retour à Toulouse vraiment important parce que depuis Du bruit sous le silence, donc paru en 99, je n'avais pas écrit d'histoire qui se passe entièrement dans cette ville. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas choisi pour cadre Toulouse. Voilà. Donc, c'est un retour.
C'est un retour
à une autre source.
Et oui, d'ailleurs, on y reconnaît le canal du Midi. Enfin, voilà, on connaît bien sûr plein d'endroits.
Toulouse a évolué aussi, donc c'est aussi c'est intéressant pour moi de revisiter la ville et je pense que je vais poursuivre cette exploration, bien sûr.
De redécouvrir la ville à travers ce que vous écrivez.
Ben parce que la ville change, quoi. La ville change à tout point de vue.
Vous mettez à jour, en fait. Un peu.
Voilà, voilà. Aujourd'hui, ça me paraît intéressant de revenir à des histoires qui pourraient se passer ici, parce que la ville, en 10 ans, a changé.
Oui, bah oui, oui. Depuis, par exemple. Depuis AZF, pas tout du moins, et puis oui, depuis une dizaine d'années.
Et puis aujourd'hui, d'autres problèmes de société se posent, la société a évolué, donc il y a d'autres désordres, d'autres tourments, donc voilà, c'est une bonne matière pour un auteur.
Alors les personnages, on va en parler, donc c'est Félix Dutray qui revient, parce que c'est un personnage récurrent qu'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer dans Loin des humains.
Tout à fait.
Donc c'est un policier, hein, voilà, et bon, il habite sur une péniche qui s'appelle la Julipe.
Au Pont des Demoiselles.
Au Pont des Demoiselles, donc voilà, on aime bien lire finalement des romans où on reconnaît des lieux, c'est toujours agréable, c'est vrai, hein. Alors voilà, au Pont des Demoiselles, il est vraiment hors norme, ce policier, il est très décalé, très un peu déjanté, un peu, il fume des pétards, il a un iguane qui s'appelle Paul, bon, il habite sur une péniche, c'est vrai que tout le monde n'habite pas sur une péniche, hein.
Bon.
Enfin, moi que, peut-être Pascal Dessin habite sur une péniche, je ne sais pas.
J'aurais pu avoir un jour la tentation.
c'est vrai que d'ailleurs c'est tentant.
Grâce à cette tentation que j'ai eu l'idée de le faire vivre sur une péniche.
Mais c'est un fantasme alors, en fait.
Fantasme, non, mais on se dit toujours pourquoi pas, un jour, tiens, c'est comme... On se dit, j'aimerais bien avoir une cabane dans la montagne. Pourquoi pas une péniche sur le canal Midi. Quoi qu'il est à un endroit quand même très bruyant. Hein.
Oui, le Pont des Demoiselles.
Il y a une rumeur liée à la circulation qui est assez pénible. D'ailleurs, il en souffre. Tant qu'à faire, vaut mieux être un peu plus loin vers Ramonville. Je pense qu'on doit mieux vivre.
Bon, peut-être que dans un prochain roman, il changera sa péniche de place.
Mais pourquoi pas?
Alors, ce policier, il est aussi un peu... Bon, c'est un roman policier, tu ne verras plus, mais un roman aussi un peu noir, quoi, on va dire. Mm-hmm. Il est pas très... Il est un peu nostalgique, un peu mélancolique, et un peu comme Félix Dutray, d'ailleurs, qui est un peu dépressif, un peu...
C'est peu de le dire, oui.
Oui, hein, et puis qui a perdu un peu les illusions de la vie, hein.
Ah ben oui, bon, il en arrive comme beaucoup de gens à la quarantaine en se demandant si il a eu le parcours qui était pour lui le plus intéressant, le plus épanouissement. Enfin, c'est une question que tout le monde se pose à un moment donné. Est-ce qu'on a
vers la quarantaine
ou parfois même avant. Bon, il y a des gens qui se le posent jamais. Certitudes et ils avancent sans se poser de questions. Bon, moi, ces gens-là m'intéressent pas beaucoup. J'aime bien les gens qui sont dans le doute et l'inquiétude. Donc voilà. Qui peut dire à un moment donné qu'il a la vie qu'il souhaitait réellement. Bon, voilà, c'est la réflexion que beaucoup de gens se font. Donc il en est là, il se pose des questions, surtout que bon, c'est vrai que il a un tempérament comme vous le disiez un peu décalé. Il est plutôt cultivé, il est plutôt prompt à prendre le bon côté de la vie. Bon, il vit dans un environnement étant capitaine de police assez extrême, hein, pour lui. Donc voilà, il est pas bien dans ses locks, pour le dire tout net.
Et puis bon, voilà, il y a des illusions de la vie et puis de l'amour, hein, aussi, ça va avec.
Oui, oh là, il traverse une petite crise, j'espère qu'il va s'en remettre.
Bon, donc on espère le retrouver en voilà, pleine forme dans un prochain...
Elisa est partie pour le laisser seul et lui permettre de réfléchir.
Bon. Alors, on verra dans un prochain roman dans quel
oui,
état d'esprit
pourquoi
il sera.
Pas. Mais bon, en tout cas, il reviendra quand il se sentira mieux.
Voilà, il faut le temps que. Voilà,
oui, parce que bon, là, il y a une pente, il est sur une mauvaise pente. C'est vrai que ce serait facile de continuer à le faire dégringoler comme ça. Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Il faut qu'il reprenne du poil de la bête et qu'il me revienne en tout cas. Enfin, il me fera plaisir de le réécrire, de reprendre une histoire avec lui quand il aura de meilleures dispositions. Vous savez, c'est comme dans la vie, je veux dire, des fois, bon, malheureusement, on a autour de soi des gens qui vont pas bien, alors on est là avec eux jusqu'à un certain point pour les aider, puis après on se dit, bon, on va prendre un petit peu de recul, chacun, et on va essayer de se retrouver quand ça ira mieux. Hein, c'est ce qui peut sauver une amitié, par exemple.
Oui, mais d'ailleurs, l'amitié, elle est évoquée aussi dans voilà, le thème de l'amitié.
C'est un thème très important dans
avec
ce livre-là. Oui,
avec
oui.
son ami Marc, qui est aussi son collègue de travail. Et l'amitié
et Rachid
fortement...
aussi, il commence à...
Oui,
et Magali,
aussi.
Bon, c'est vrai que pour lui, l'amitié, c'est essentiel. Et donc, ça provoque dans le récit, qui est une enquête policière au sens strict... des histoires dans l'histoire qui et là on est plus dans les sentiments quoi mais là comme dans la vie.
Oui, voilà, donc il y a l'amitié avec son ami Marc. Bon, il y a le personnage de Rosane qui est intéressant aussi et puis moi j'aime bien le personnage de Berthe.
Ah oui, ça, lui, il est haut en couleur, oui.
Haut en couleur, voilà. Son voisin de péniche, en fait.
Voilà, son voisin de péniche, voilà. Et il fait un peu mon capitaine ad hoc, quoi.
Oui, ah oui, tout à fait, d'ailleurs.
C'est le personnage un peu exubérant, excessif, tendre aussi.
Oui, qui est là aussi quand ça découle.
Voilà, c'est un personnage que j'aime bien et qu'on retrouvera, je crois, pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est un garçon qui est prêt à tout.
Et là aussi, en amitié, enfin, je veux dire, voilà, qui a du sentiment, hein.
Oui,
qui a
complètement,
Qui a du cœur, quoi, comme on dit. Et puis, il y a aussi, je me rappelle plus son prénom, mais c'est l'homme qui habite le chalet en bois et qui mange ses pâtes, enfin, ses nouilles avec l'autre.
Olivier de Hortel.
Alors ça, c'est un sacré personnage atypique aussi.
Ouais, il fait partie du rassemblement des, non, du groupe d'intervention rapide. C'est un groupe d'ornithologie,
voilà, tout à fait.
Un peu extrême.
Donc, alors lui, il vit voilà, dans un décor très, très pittoresque, où quand il pleut, et justement, Félix va le voir un jour, il pleut abondamment. Et donc, il met des casseroles un peu partout là où ça fuit, et voilà, dès qu'il récupère l'eau pour faire ses nouilles avec. Enfin bon, il y a de l'humour hein, aussi dans le livre, il y a plein de clins d'œil.
À un moment donné, en plus, quand on est dans le récit, dans une certaine gravité, bon, il faut créer des respirations, il faut provoquer un peu le sourire pour décrisper un peu les choses.
Oui.
Et le lecteur. Bon. Pour ça que ce livre-là, contrairement à d'autres, notamment Loin des humains, qui était beaucoup plus noir et plus tragique, celui-là, par sa mélancolie, parfois ses scènes un peu décalées, permet de supporter un peu mieux la gravité de la situation. Quoi.
C'est plus humain. Peut-être. On est plus dans la réalité humaine. Dans la
voilà,
réalité
oui.
De
et puis dans celui-là, je m'attache un peu plus aux relations humaines, au-delà de l'intrigue proprement dite de l'enquête policière.
Alors, l'enquête policière, justement, ça commence par une mort, comme on l'a dit, assez atroce. Ça se passe dans le monde de la taxidermie. Donc, on retrouve un peu, comme je disais tout à l'heure, dans Cruelle Nature, votre passion de l'ornithologie.
Tout à fait, oui.
Donc, taxidermie, c'est le trafic d'animaux, hein, voilà, tout ça. Ben,
le thème principal du livre, c'est le trafic d'espèces animales, notamment, d'espèces rares, qui est un trafic qui génère d'énormes profits. Pour ceux qui le pratiquent, qui sert aussi aujourd'hui à entretenir le terrorisme international. C'est une source de devises très forte. Donc, il y a dans certains pays, il y a des marchés à ciel ouvert assez impressionnants où l'on vend des animaux en voie de disparition. On touche là à quelque chose d'assez singulier et d'assez inquiétant.
Et puis actuel en fait, hein,
et complètement actuel.
Dans l'actualité.
Voilà, on est. J'essaie autant que faire se peut, mais c'est vrai que c'est un sujet très très douloureux pour moi. C'est
ouais,
vrai
qui vous tient à cœur.
Bah oui, par le monde tel qu'il se présente aujourd'hui, il y a une destruction massive des espèces liée donc à nos modes de vie, à nos économies échevelées, si on peut dire. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, bon, on utilise les espèces à des fins encore moins avouable, quoi. Hein. Donc.
Oui, aussi, voilà, pour tester. Voilà, ils sont testés en laboratoire, etc.
Il y a ça. Mais alors là encore, c'est au nom de la science.
Encore, oui,
mais,
voilà.
Mais là, il y a tout un monde. J'espère que dans ce récit, dans ce livre, on apprend des choses.
Oui, tout à fait. Ce que j'allais dire, moi, ça m'a appris des choses parce que le monde de la taxidermie, je connaissais pas du tout. Enfin, c'est vrai que j'avais jamais imaginé quand je voyais un animal empaillé tout le travail que ça avait représenté en amont.
C'est
vrai que ça m'a appris pas mal de choses et j'avais pas vu du tout les choses comme ça avant de lire ce livre. Donc c'est vrai qu'on apprend des choses sur tout ce monde-là et sur avec tout ce qui en découle, le trafic d'animaux rares,
ça c'est, etc. C'est ce qui est intéressant dans le roman noir et dans le roman policier en général, c'est que quand l'auteur s'attache à explorer un milieu, et bon, il enquête en profondeur, il rencontre des gens, il s'informe, il essaie autant que faire se peut d'être assez rigoureux dans le traitement de ses informations,
oui,
un peu à la manière d'un bon enquêteur dans la presse. Donc ça permet, moi, en tout cas moi en tant que lecteur, c'est un régal de découvrir un monde. Et parce que j'ai confiance dans certains auteurs et je sais qu'ils me racontent pas des histoires pour le coup lorsqu'il est question de sujets importants.
Donc vous avez fréquenté donc des taxidermistes et des
après l'écriture.
Bah,
parfois on n'a pas trop envie d'être influencé par la vie
aussi,
personnelle
oui.
des gens que l'on rencontre, mais en revanche je me suis informé très précisément des techniques et puis pour la partie trafic d'espèces j'ai mené une enquête assez soutenue où j'ai des amis ou des connaissances naturalistes qui m'ont confié je n'ai rien inventé sur toute cette partie-là, le voyage des colibris dans les tubes à cigares,
oui,
c'est vrai,
oui.
La femme qui se fait surprendre à Melbourne avec des poissons sous ses jupes, c'est vrai, les petits singes emmaillotés comme des bébés dans les couffins dans les aéroports,
c'est
vrai. Là c'est garanti véridique. Alors
l'imagination n'a pas de limite hein pour faire passer
c'est-à-dire que les auteurs
animaux,
finalement n'ont pas beaucoup d'imagination parce que j'aurais jamais osé c'est vrai,
les colibris imaginer un trafic
de colibris de la forêt équatoriale sud-américaine à l'Europe par l'intermédiaire de tubes à cigares, parce qu'il faut imaginer la scène, c'est-à-dire que un colibri c'est 3 grammes, 6 grammes pour 3 grammes pour les plus légers. Bon, imaginez déjà l'idée de glisser un petit oiseau dans un tube à cigare, aussi gros que soit le cigare. Alors il faut le mettre dans sa poche, c'est indétectable au scanner dans les aéroports. Notre trafiquant monte dans l'avion, et puis l'animal doit pas mourir, alors il a déjà le stress. Alors de temps en temps, il doit aller aux toilettes, ouvrir, lui donner un peu d'air, lui donner un peu d'eau. Et puis il croise les doigts pour que il doit y avoir une perte énorme d'ailleurs pour un oiseau qui traverse, je ne sais pas, mais il y en a peut-être 100 qui meurent parce que il faut alimenter la folie d'un riche collectionneur
à l'autre bout
Suisse ou en Allemagne ou en France, on ne sait pas ce qui se passe derrière nos murs parfois.
Oui, donc c'est un livre qui aborde aussi ce sujet.
Voilà, et c'est ainsi que, au-delà de la destruction des habitats, au-delà de beaucoup de choses, c'est un trafic qui aujourd'hui menace grandement de nombreuses espèces.
Puisque, c'est pour ça que vous avez envie d'en parler dans ce livre précisément. Il y a une allusion à Claude Mesplède. Il y a quelqu'un que vous appelez dans le roman Mousplaid. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est un hommage à Claude Mesplède.
C'est à Mousplaid qui était très présent dans le premier volet du cycle, avec Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Mais il est là dans mes livres depuis très longtemps, puisqu'il était là déjà dans Du bruit sous le silence, il était là dans Bouche d'ombre. Donc il est là depuis les débuts, c'est le commissaire. Alors je l'ai mis à la retraite dans Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Et aujourd'hui, évidemment, il est évoqué parce qu'il a laissé de bons souvenirs.
D'accord, donc c'est un hommage à un écrivain toulousain
qu'on
connaît tous.
Historien, justement, des littératures policières.
Des littératures policières, donc ça lui va très bien en fait. Et comme le temps nous rattrape... on va peut-être terminer en parlant de vos projets, Pascal Dessin.
Ben,
une fois que tu ne verras plus, c'était 2008. Et l'année oui, prochaine.
Alors, les années passent vite. Hein. Donc l'année prochaine en 2009.
Enfin, un tous les ans, hein. Un Pascal Dessin tous les ans. Hein.
Oui,
c'est très régulier.
Et donc,
hein,
pour
c'est
changer,
imparable.
Il y en aura deux en 2009.
Ah, bah
voilà. Il y aura un recueil de chroniques vertes et vagabondes qui s'appelle L'appel de l'huître. C'est une sorte d'appel de la forêt version ostréiculture.
Comme vous aviez fait pour le.
Voilà, un drap sur le Kilimandjaro. Donc, c'est. Si vous voulez, j'écris des romans. Certains de mes romans sur ces problématiques-là d'environnement, j'ai besoin par ailleurs d'écrire sur ces questions d'une manière, je dirais, plus sérieuse. Donc voilà, ça va paraître le 3 mars. Donc un nouveau recueil de chroniques et puis il y aura un roman pour la rentrée prochaine.
Pour la rentrée prochaine, ouais. Un roman. Donc bon, on s'imagine peut-être un polar encore ou autre chose.
Pas un polar, non.
Pas un polar.
Ce sera plutôt justement un livre qui sera dans la ligne de Cruelle Nature, donc beaucoup plus social.
Mais noir aussi, j'imagine, parce que Cruelle Nature,
très, très
c'était
noir
parce aussi.
Que
hein.
je parle d'un sujet très, très dur. Donc voilà, ça sera pour la rentrée 2009.
Et sinon, Salon Montgiscard, le 18 janvier prochain, vous y serez pour présenter justement Tu ne verras plus. Et puis au Salon de Balma au mois d'avril, certainement
oui,
aussi.
Oui, dans la région, c'est ce qui est prévu, oui, à peu près.
Alors, la question qu'on peut se poser quand on écrit des livres comme ça, très, très noirs, où les personnages paraissent tellement désabusés de la vie avec l'homme au sac à dos. Alors ça aussi, il faut, avant de terminer l'émission, il faut parler de l'homme au sac à dos. On a tous un homme au sac à dos dans notre vie. Parce
Claire,
que Félix.
Votre avis. Non, mais c'est vrai que, non, vous
Si, mais j'ai trouvé l'évocation.
C'est le gros sac, quoi.
Très...
C'est le gros sac.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac?
Ouais. Ah, ben, il y a nos fautes, nos erreurs, il y a nos tourments, il y a peut-être des mauvaises choses qu'on a fait dans la vie, qu'on regrette. C'est le gros paquet que traballe tout le monde à un moment donné. On a tous nos travers, on a heureusement des qualités, mais on a aussi bien des défauts. Voilà, ce sac contient tout le monde, qu'on contient tout ça. Mais à la différence de beaucoup, pour Félix, ça s'exprime par une vision, qui est une vision très fantomatique,
oui,
d'un homme indistinct qu'il porte pour lui. Alors c'est bizarre quand même. Alors, j'ai pas été creusé au niveau de la psychanalyse ce que ça pourrait représenter, mais en tout
il
cas,
il ne porte pas lui directement.
Voilà, il y en a un autre qui porte à sa place.
Il est un porteur perso.
Mais est-ce que c'est son double? Est-ce que c'est forcément une provocation pour lui? Donc voilà, cette idée m'intéressait parce que je pense que parfois, c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelqu'un qui. Voilà,
on et vous pensez ça. Que c'est lié un peu à l'âge, enfin à l'âge, voilà, ce passage de la quarantaine, que ce soit pour Félix ou pour d'autres.
Je sais pas. Je peux pas dire, non.
Il y a un passage un peu obligé dans une vie.
Il y en a qui très tôt portent
voilà.
déjà un gros sac. Hein.
Mmh. Oui, c'est vrai. Il y en a déjà lesté de cailloux dès le départ. Hein, c'est
ah oui,
sûr.
Ah, c'est dur. Ouais. C'est pas facile pour tout le monde.
Et donc c'est un peu quand même un exutoire, quoi, ce genre de livre pour Pascal Dessin.
Bah non, pas un exutoire, mais on y exprime des choses du moment. Alors autant on est sensible à comment va le monde et donc on se nourrit d'événements dont on est quelque part l'acteur. Hein. Ça se passe juste avant. C'était l'action se déroule en 2006, je crois. Donc il y a le contexte de 2006. On est encore un peu dans la pré-AZF. On n'est pas encore dans une Toulouse devenue rouge, rose et verte. Donc on capte voilà l'esprit de la ville, du lieu lié à des événements. Et puis forcément, on capte de ses contemporains parce qu'on les côtoie et là on capte des sentiments, on capte des impressions, voilà, et de soi, des autres, enfin tout ça c'est un peu
la réalité,
c'est un peu la
de la
magie,
vie, un
oui,
peu et
voilà.
De la magie voilà qui est un peu vous avez
on fait
peu...
comme on peut avec ce qu'on a à disposition, quoi, je veux dire à la manière d'un peintre, on a des couleurs,
voilà, des petites touches,
voilà, et puis on fait comme on peut.
Il y a une phrase que j'ai bien aimée, on va terminer là-dessus l'émission. C'est à la fin, c'est Félix en fait qui, c'est le narrateur, voilà, c'est Félix en fait qui raconte. Et il dit à un moment, on peut très bien se passer de la plupart des choses dont les gens croient ne pas pouvoir se passer.
Et ouais, je trouve que c'est... Ça, j'en suis convaincu.
Vous en êtes convaincu, Pascal Dessin. Mais oui, c'est vrai. Moi aussi. Et donc Félix aussi, apparemment.
Voilà, on est plusieurs donc.
Voilà, on est plusieurs. Merci Pascal d'être
Merci Claire.
Venu. On se retrouvera, ben, j'espère, l'année prochaine pour présenter ces nouveaux projets. Nous, on se retrouve jeudi prochain à la même heure sur les ondes de Radio Occitanie. Je recevrai Pascal Paris pour son dernier livre, Les chroniques de la psychanalyse. Enfin, on parlera de Freud, de Charcot et du beau Guillaume Le Tellier, qui est le héros de ce livre avec Patricia Paris. À d'ici.